franceinter.fr.
À la une de la science, aujourd'hui, une nouvelle théorie sur les trous noirs présentée par Stephen Hawking.
Je propose que l'information d'un trou noir ne soit pas stockée à l'intérieur, comme on l'attendait, mais à sa surface, dans son horizon, sous forme de supertranslation de cet horizon.
Voilà un extrait donc de la présentation de Stephen Hawking devant un florilège de physiciens, dont quelques prix Nobel. C'était en fin de semaine dernière à l'Institut Royal des Technologies de Stockholm. Et comme nous avons eu beaucoup de mal à comprendre les explications de Stephen Hawking, nous avons fait appel à celui qui va nous éclairer, Aurélien Barreau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Vous travaillez également sur les trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que pense avoir trouvé Stephen Hawking?
Déjà, je peux vous rassurer, nous avons, nous aussi, eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voulait dire.
Ah, merci, c'est gentil, ça. Ça nous fait du bien.
Oui, oui. Alors, effectivement, le problème auquel s'attelle Stephen Hawking est en quelque sorte la suite logique du paradoxe qu'il avait lui-même mis en lumière il y a quelques 40 ans. Puisqu'il y a 40 ans, il a montré, et cela a fait grand bruit dans la communauté scientifique internationale, que les trous noirs étaient capables de s'évaporer. C'est-à-dire que, contrairement à l'opinion commune, à la doxa, les trous noirs ne sont pas réellement noirs, ils peuvent émettre des particules. Et ça pose un grand problème, parce que c'est incompatible au niveau structurel, fondamental, avec une théorie très bien établie qui est la mécanique quantique. Parce que cette évaporation ne conserve pas l'information. Autrement dit, les trous noirs sont comme amnésiques. Ils perdent le souvenir de les astres qui les ont formés. Et précisément, ce à quoi aujourd'hui Stephen Hawking entend apporter une réponse, c'est au paradoxe qu'il avait lui-même généré en mettant en lumière, dirais-je d'un point de vue mathématique, ce processus d'évaporation.
Donc ça fait 40 ans que les physiciens planchaient sur le problème posé par Stephen Hawking, c'est ça ?
Oui, sauf que je m'inscrirai en faux contre l'usage du passé que vous venez de faire. C'est-à-dire que la solution est loin d'être trouvée.
Ça
fait 40 ans que nous travaillons sur ce problème. Il existe des centaines d'hypothèses viables pour tenter d'en venir à bout. Et la proposition faite il y a quelques jours par Stephen Hawking n'est qu'une proposition parmi un grand nombre d'autres et elle ne jouit pour l'instant d'aucun primat dans la communauté des spécialistes.
Aurélien Barreau, de quoi parle-t-on quand on parle de l'information d'un trou noir ? C'est la matière qui l'aspire ?
Oui, en réalité, ce qui se passe, c'est que la mécanique quantique, donc cette théorie très bien établie qui décrit l'infiniment petit, nous montre que l'information n'est jamais perdue. Autrement dit, si je connais l'état final d'un système, je dois pouvoir retrouver quel était son état initial, ce qu'il fut dans le passé. Et c'est là où on a un problème. Parce que quand un trou noir s'évapore, il semble qu'il s'évapore toujours de la même manière, quels que soient les astres ou les objets à partir desquels il a été formé. Il s'inscrit donc en faux par rapport à ce théorème de conservation de l'information. Donc là, on fait véritablement face à un paradoxe qui nous interroge sur les fondements de nos compréhensions physiques.
Et donc cette information se trouverait à la surface, à la périphérie des trous noirs, Aurélien Barreau ?
Il y a beaucoup d'hypothèses dans la littérature scientifique qu'on peut ranger en de grandes classes sur où est stockée l'information. Alors peut-être, disent certains, est-elle véritablement perdue, et la mécanique quantique est fausse. Peut-être existe-t-il dans les trous noirs des sortes de bébés univers, ce qui d'un point de vue formel est tout à fait loisible. Peut-être l'évaporation en réalité s'arrête-t-elle et l'information est-elle conservée dans quelques reliques ? Peut-être existe-t-il une copie de l'information quelque part dans l'univers ? Peut-être, ça c'est les modèles sur lesquels je travaille avec Carlo Rovelli et Francesca Vidotto, comme la mécanique, comme la gravité quantique nous le suggère, les trous noirs ne sont-ils qu'une phase de transition vers des trous blancs, c'est-à-dire des objets en rebond qui recrachent l'information ? Ou peut-être, comme l'a suggéré Hawking il y a quelques jours, l'information est-elle stockée à l'horizon ?
Ça fait beaucoup de propositions, tout ça.
Il y a beaucoup d'articles sur cette hypothèse.
Oui, donc on n'a toujours pas tranché, en fait. Hein.
On est loin d'avoir tranché. Je dirais que d'un certain point de vue, chaque nouvelle hypothèse ajoute encore un peu à la confusion, puisqu'actuellement, il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a aucune corroboration expérimentale ou observationnelle qui permette de venir à bout du paradoxe.
Moi, j'aime bien votre idée de trou noir comme pouponnière des univers. Ça, j'aime bien, si je peux me permettre, mais... C'est assez joli.
Rassurez-nous, si on trouve une réponse, c'est une théorie qui s'appliquerait à tous les trous noirs ?
À tous les trous noirs et peut-être même au-delà. Je crois que lorsque la réponse sera trouvée, c'est en quelque sorte la gravité quantique, c'est-à-dire cette sorte de théorie Graal de la physique que nous recherchons depuis un siècle et qui permettrait de concilier d'une part la grande théorie d'Einstein, la relativité, avec d'autre part la grande théorie de l'infiniment petit, c'est-à-dire la mécanique quantique. Eh bien, je pense que quand la véritable solution au problème de l'information des trous noirs sera trouvée. C'est en quelque sorte la gravitation quantique qui sera enfin comprise. Et donc, au-delà même des trous noirs, c'est l'origine de l'univers qui entrera enfin dans le champ, dirais-je, de la physique comprise et sous contrôle.
Aurélien Barreau, il y a quelque chose d'amusant avec Stephen Hawking, c'est que tout le monde, justement, l'écoute, tout le monde commente la moindre de ses paroles, alors que pour l'instant, aucun article n'a été publié sur cette question, hein.
Oui, ça c'est un peu contrariant. En effet, il y a un effet d'annonce qu'aucun autre physicien au monde ne se permettrait. On en parle à la presse avant de soumettre l'article à publication scientifique. Au niveau déontologique, c'est un peu ennuyeux, je pense, oui.
Il y a quand même un effet bénéfique à l'effet Hawking, c'est qu'on parle des trous noirs quand même.
C'est vrai, je crois que c'est en cela d'ailleurs que votre émission, comme quelques autres, joue son rôle. C'est-à-dire qu'on prend prétexte de l'effet charismatique ou médiatique de la figure tutélaire de Hawking pour mettre sur le devant de la scène des problématiques scientifiques qui sont tout à fait légitimes et tout à fait centrales.
Est-ce que les trous noirs ont une odeur, s'il vous plaît, Aurélien Barreau?
C'est une très bonne question, parce que figurez-vous qu'on le dit de façon comme une boutade, de façon presque exactement ainsi en physique théorique, on dit que les trous noirs n'ont pas de cheveux. Voilà, ou n'ont pas de poils, suivant la traduction du No Hair Theorem en anglais. Alors cette absence de cheveux, ça veut précisément dire que les trous noirs sont les objets les plus simples de l'univers. Ils ne sont caractérisés que par leur masse et leur vitesse de rotation, ce qui signifie que les trous noirs sont plus simples que des particules élémentaires. Et ça fait partie du paradoxe. Comment peuvent-ils stocker une grande quantité d'informations alors même qu'ils sont extraordinairement simples? Et aujourd'hui, nous ne savons pas comment concilier, je dirais, la tension entre ces deux assertions.
Et donc sans poils, le trou noir ne transpire pas. Voilà, on a eu réponse.
Le trou noir ne transpire pas, et pour notre plus grand plaisir, en tant qu'astronome.
Et on dit aussi que le vide interstellaire sent la framboise, si je m'abuse. J'ignorais
cette image, mais en l'absence de molécules, j'ai quand même un peu de mal à imaginer l'existence d'une odeur. Donc je crains qu'il y ait une petite supercherie dans cette assertion.
Merci beaucoup en tout cas Aurélien Barreau. On aura le plaisir de vous accueillir quand vous le souhaitez pour une émission sur les trous noirs dans La Tête au Carré. Merci pour vos explications en tous les cas.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Dans le reste de l'actualité scientifique, c'est une première. L'industrie pharmaceutique va tester un médicament pour prolonger la durée de vie. Une étude publiée en 2014 par l'université de Cardiff montrait que les personnes traitées à la metformine, un médicament contre le diabète de type 2, avaient une espérance de vie supérieure de 15% par rapport au reste de la population. Le projet TAM vise donc à suivre pendant 53 000 non-diabétiques de plus de 70 ans, traités ou non à la metformine. Le but affiché est donc de gagner 2 à 5 ans de vie. Presque tous les oiseaux mangeront du plastique d'ici 2050, c'est en tout cas ce qu'affirme le scientifique australien Chris Wilcox. Son étude parue hier montre qu'aujourd'hui déjà chaque kilomètre de mer contient environ 600 000 débris polluants. Et en extrapolant ce chiffre, il prouve que dans moins d'une quarantaine d'années, 99,8% des oiseaux marins auront ingéré du plastique potentiellement dangereux pour leur santé. Et puis des souris à l'origine d'un potentiel traitement contre les acouphènes. Un Français sur 4 en souffre régulièrement de ces bruits parasites qui peuvent s'accompagner de pertes auditives. Dans une étude réalisée sur des souris, des chercheurs de l'université de Pittsburgh aux États-Unis ont découvert un mécanisme de résistance au bruit qui protégerait naturellement ces animaux. Cette découverte pourrait permettre la mise au point d'un traitement pour l'homme contre les acouphènes.